VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 6 septembre 2019, en direct de Washington. Idrissa Seloudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est mort à 95 ans.
Au Soudan, le premier ministre de la transition, Abdallah Hamdok, dévoile le premier gouvernement post-Béchir.
Au Cameroun, début ce vendredi du procès de Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya.
En République démocratique du Congo, manifestation à Kinshasa après celle de Lumumbashi, en réaction à la violence xénophobe en Afrique du Sud.
Au Burkina Faso, un militaire et 5 assaillants ont été tués dans une attaque dans le nord.
Le pape François auprès des malades du sida aujourd'hui au Mozambique.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, qui a dirigé d'une main de fer son pays de 1980 à 2017, est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé vendredi le chef de l'État Emmerson Mnangagwa. C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe et de l'ancien président, le commandant Robert Mugabe, a déclaré Emmerson Mnangagwa dans un tweet.
C'est finalement fait au Soudan. Le premier gouvernement depuis la chute en avril du président Omar el-Bashir a été dévoilé hier par le premier ministre Abdallah Hamdok. Il s'agit d'une étape majeure en plein processus de transition avec la mise en place d'institutions devant mener à un pouvoir civil. Jacques Aristide.
L'annonce est intervenue après un report de plusieurs jours pour donner le temps au chef du gouvernement de choisir parmi les noms proposés par les forces pour la liberté et le changement, fer de lance des manifestations qui ont conduit à la destitution du président Omar el-Béchir. Le nouvel exécutif est composé de 18 membres, y compris 4 femmes, dont la ministre des Affaires étrangères, Asma Mohamed Abdallah. Le Soudan s'est doté d'un conseil souverain après la signature en août dernier d'un accord entre le conseil militaire et les meneurs de la contestation. Le pacte trace les grandes lignes d'une période d'un peu plus de 3 ans qui doit ouvrir la voie à des élections démocratiques. L'un des premiers défis du gouvernement sera de relever l'économie du pays, frappée notamment par 2 décennies de sanctions américaines. Abdallah Hamdok, un économiste chevronné, a déjà appelé Washington à retirer son pays de la liste des États soutenant le terrorisme.
Au Cameroun, le procès de l'opposant Maurice Nkanto s'ouvre ce vendredi à Yaoundé devant le tribunal militaire. Monsieur Kamto, qui revendique la victoire à la présidentielle de 2018, est poursuivi pour insurrection, hostilité contre la patrie et rébellion. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Njultap.
Maurice Kamto va comparaître au cours d'une audience publique. Il a souhaité qu'elle soit retransmise en direct par la télévision d'État. Mais aucune suite officielle n'a été réservée à cette audience. Cela n'entame pas le moral de mon client. Le procès va se tenir, a déclaré à VOA Afrique Michel Ntiale, l'un des avocats du collectif qui défend Maurice Kamto. 3 principaux alliés politiques de ce dernier pendant l'élection présidentielle de 2018 sont également concernés par l'audience de ce jour. Il s'agit de Albert Nzongan, Paul-Éric Kingé et Christian Penda-Ekoka, un ancien collaborateur du président Biya, passé à l'opposition. Le rappeur Valsero, 3 quarts du parti MRC, dont l'avocate Michèle Ndoki, et de nombreux militants de cette formation politique sont aussi attendus à la barre. Au total, 100 de personnes vont être jugées. Olivier Bibou-Nissak, porte-parole de Maurice Kamto, a lancé hier soir un appel à la mobilisation populaire pour assister, citation, à ce procès militaire de civil hors normes et illégal, fin de citation. Maurice Kamto, ses alliés politiques en détention provisoire depuis le mois de février dernier, risquent en principe la peine de mort. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, manifestation à Kinshasa après celle enregistrée à Lumumbashi en réaction à la vague de xénophobie meurtrière en Afrique du Sud. Un sit-in devant l'ambassade sud-africaine a été dispersé par la police, qui a aussi bloqué une tentative de pillage de quelques intérêts sud-africains. 16 personnes ont été interpellées. Le point avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Plus de 300 personnes ont tenté de piller jeudi soir le supermarché Shoprite, un des commerces tenus par les Sud-Africains à Kinshasa. La police, qui est vite intervenue sur place, a usé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Son numéro 1, le général Silvano Kasongo, qui a annoncé 16 interpellations parmi les manifestants, signale par ailleurs que des mesures de sécurité ont été renforcées autour de l'ambassade et de quelques intérêts sud-africains dans la capitale de la RDC. Ce dispositif sera, selon lui, maintenu vendredi, car d'autres manifestations ont été annoncées. Jeudi matin, pour rappel, un groupe de jeunes avait déjà tenté de casser la barrière de l'ambassade sud-africaine située dans la commune de la Gombe avant qu'il ne soit maîtrisé par la police. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, un militaire burkinabé a été tué, 2 autres blessés et 5 assaillants abattus hier jeudi dans une embuscade contre une patrouille dans le nord du pays, a-t-on appris de sources sécuritaires.
Et au Mali, selon une source militaire, l'armée a mené jeudi dans le centre du pays des opérations pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Pas de précision sur les objectifs visés ni les moyens engagés. Mais le groupe armé Dogon, Dan Nan Ambassagou, officiellement dissous mais sans pour autant avoir cessé ses activités, dit avoir été la cible de ces opérations.
Au moins 66 civils, dont 44 femmes, ont été engagées.
Dans le sud-est du Niger, plus de 60 civils ont été enlevés durant le seul mois du juillet 2019, selon une source onusienne. Le groupe Boko Haram est resté actif dans cette région. Des détails avec Eki Abadou.
Au moins 66 civils, dont 44 femmes, ont été enlevés dans le seul mois de juillet dans la région de Diffa. Début août, les Nations Unies avaient annoncé que 179 personnes avaient été enlevées depuis janvier 2019 par des groupes armés. Selon les autorités de Diffa, ces rapts, souvent suivis de demandes de rançon, sont surtout le fait de Boko Haram. Le mois de juillet correspond à la montée des eaux de la rivière Kamadougou entre le Niger et le Nigeria, ce qui rend plus difficiles les incursions suivies de pillages. Alors, pour trouver de l'argent, il est plus facile d'enlever contre des rançons, a indiqué Mara Mamadou, membre de la société civile de Diffa. Ces kidnappings sont souvent réalisés de nuit dans des villages bordant la rivière Kamadougou. Selon un élu local, certains otages sont remis en liberté après le versement de rançons, pouvant parfois dépasser le million de francs CFA.
Le pape est attendu ce vendredi dans un centre de soins pour les malades du sida dans la capitale du Mozambique, très touchée par ce fléau. Ce sera juste avant de faire ses adieux au pays au cours d'une messe dans un stade. Le sujet de la prévention des maladies sexuellement transmissibles demeure un terrain miné pour l'Église catholique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Réaction à la vague de xénophobie meurtrière en Afrique du Sud, un sit-in.
Nous y reviendrons tout à l'heure. Il s'agit maintenant de parler de l'ouragan Dorian, toujours classé en catégorie 2. Poursuivait jeudi sa lente remontée de la côte est des États-Unis où des habitants de la Caroline du Nord, notamment menacés par les inondations, s'apprêtaient à passer une nuit difficile. Aux Bahamas, que Dorian a ravagé avant de plonger la côte américaine, le bilan provisoire a encore grimpé pour atteindre 30 morts.
En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a assuré hier qu'il préférait être mort au fond d'un fossé plutôt que de demander un report du Brexit. Il a martelé que le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 31 octobre, tout en plaidant pour la tenue d'élections législatives anticipées. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Nous devons sortir de l'Union européenne le 31 octobre, a répété le Premier ministre britannique, s'exprimant devant des élèves policiers. Les députés venaient d'approuver une proposition de loi l'obligeant à demander à Bruxelles un report de 3 mois du Brexit s'il ne trouvait pas un accord de sortie. Les élections doivent donner aux Britanniques l'opportunité de décider quel Premier ministre doit se rendre au sommet européen à Bruxelles les 17 et 18 octobre, a soutenu Boris Johnson. Voulez-vous de Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste, avec son plan de prolonger pour finalement rester dans l'Union, ou voulez-vous qu'on mette en œuvre le Brexit, a-t-il lancé. Il mise à présent sur des élections générales qui pourraient lui redonner la majorité qu'il a perdue au Parlement. Un nouveau report du Brexit devra être approuvé à l'unanimité par les 27 membres de l'Union européenne. Boris Johnson est aussi attaqué sur le terrain judiciaire. L'examen d'un recours contre la suspension du Parlement se poursuit aujourd'hui à la Haute Cour de justice à Londres.
La Minute Éco, Nani Talani.
Au Mali, la société Ciment et Matériaux, filiale du groupe français Vika, va mettre en service le mois prochain une nouvelle unité de broyage à Diaga dans la région de Koulikoro, publie l'agence Ecofin. La cimenterie aura une capacité de production initiale de 500 000 tonnes de ciment par an. Ce projet, d'un montant de plus de 20 milliards de francs CFA, générera plus de 1 600 emplois. Le Libéria envisage d'installer un fonds de garantie agricole de 2 millions de dollars afin de booster les prêts en faveur de l'agriculture. Le fonds devrait accorder aux entreprises agricoles des prêts assortis d'un délai de grâce d'un à deux ans et de longues échéances de remboursement. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement libérien visant à impulser un développement agricole durable et à créer des emplois. L'agriculture fournit près de 40% du PIB du Libéria et emploie près de 60% de la population. Pour terminer cette minute éco, les pays d'Afrique australe et de l'Est lanceront une zone tripartite de libre-échange qui devrait être opérationnelle d'ici 2020, selon l'agence de presse Xinhua. Elle permettra la mise en application progressive des réductions tarifaires qui devraient aboutir à l'objectif de 0% de droits de douane pour tous les biens échangés. La future zone veut rapprocher les zones de libre-échange du marché commun de l'Afrique orientale et australe, de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Troisième revers pour le Sénégal au Mondial de basket.
Les Lions de la Teranga ont concédé leur troisième défaite de suite en s'inclinant devant le Canada sur le score de 82 à 60 lors de la troisième et dernière journée du groupe H. Le Sénégal avait pourtant bien démarré le premier quart-temps, l'emportant même 22 à 11 grâce à un excellent Mohamed Faye avec ses 12 points. Mais Maurice Ndou et ses partenaires ont mal négocié le deuxième. Conséquence, les Canadiens ont vite remis les pendules à l'heure avant de virer en tête à la pause avec un petit point d'avance 33 à 32. La deuxième partie a été une formalité pour le Canada qui s'est largement imposé 82 à 60, soit 22 points d'écart, 3 matchs et 3 défaites donc pour le Sénégal qui dit au revoir au Mondial de basket Chine 2019, tout comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Angola et la Tunisie éliminés.
Les Américains se sont vengés sur les Japonais.
Passé près de l'humiliation face à la Turquie mardi, Team USA a pulvérisé le Japon 98 à 45 en clôture du premier tour. L'équipe de Greg Popovich commencera la deuxième phase contre la Grèce du MVP de la dernière saison NBA, Gianni Antetokounmpo. Les Grecs ont réagi après leur faux pas face au Brésil et ont obtenu leur billet pour le deuxième tour. En battant la Nouvelle-Zélande 103 à 97, les Turcs ont laissé échapper leur qualification en s'inclinant face à la République tchèque 91 à 76. Dans l'une des plus belles affiches du premier tour, les Australiens ont réaffirmé leurs ambitions en battant la Lituanie 87 à 82. Les 16 qualifiés vont maintenant disputer à partir d'aujourd'hui une deuxième phase de poule où les deux premiers de chaque groupe iront en quart de finale.
En football, le Tchad battu par le Soudan au préliminaire du Mondial 2022.
Le Soudan s'est imposé hier en N'Djamena 3 buts à 1 grâce à un triplé de Ramadan Agab. L'unique but tchadien a été inscrit par Ezekiel Ndouassel. Un peu plus tôt, le Rwanda a disposé des Seychelles 3-0, 1-0 pour la Somalie devant le Zimbabwe. Ce soir, la Gambie fera face à l'Angola et les Comores joueront contre le Togo. Les matchs retour ont lieu du 8 au 10 septembre. Le premier tour de la zone Afrique opposera ensuite les 28 nations les moins bien placées au classement FIFA en match à élimination directe. Puis les 14 vainqueurs retrouveront les 26 autres équipes du continent pour le deuxième tour avec 10 groupes de 4. Le premier de chaque groupe verra le troisième et dernier tour qui offrira 5 tickets pour la Coupe du Monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Premier ministre du Soudan a rendu public les 18 membres de son gouvernement, dont 4 femmes. La première priorité, ou comme disait le président poète, la priorité des priorités est de mettre un terme à la guerre et de construire une paix durable. L'autre défi sera de relever l'économie. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Khartoum le correspondant de VOA Afrique, Salah Mohamed El Hassan.
Oui, selon la liste qui est devant moi, il y a des représentants de toutes les régions du Soudan, du Nord, de l'Est, du Centre, de Kordofan, de Darfour, de toutes les régions en général. Mais on parle encore toujours de quotas entre partis politiques, surtout la nomination de M. Medeni Abbas qui a été contestée parce qu'il faisait partie de l'équipe de pour parler des forces de liberté et de changement. Et puis il y a un autre ministre qui a été contesté, qui a été enlevé de la liste parce qu'il avait des relations avec le parti du Congrès national de l'Omer Bechir. La liste comprend 4 femmes dont la ministre des Affaires étrangères, Madame Asma Mohamed Abdallah, qui n'était pas dans les listes des forces de déclaration de liberté et de changement, mais qui a été choisie par M. Abdallah Hamdok lui-même.
S'agit-il des visages déjà connus ou c'est un gouvernement de rupture avec l'Omer Bechir?
C'est un gouvernement de rupture avec avec le régime de Bechir, mais il y a des gens qui sont bien que nous, chacun dans son domaine.
Le Premier ministre Hamdok a parlé des conflits qui rongent les États du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Est-ce qu'il a dit comment il compte les aborder?
D'abord, le processus de paix, la première priorité de ce gouvernement. Les 6 premiers mois seront consacrés à la recherche de paix, à des pourparlers de paix avec les mouvements et les factions armées de Darfour, de Kordofan, du sud de Nil Bleu. Et alors, là, c'est plutôt positif. L'atmosphère à Khartoum, tout le monde est content. Il y a même des petits groupes des jeunes qui sont sortis dans la rue pour célébrer, pour fêter.
Salah Mohamed El Hassan, correspondant de VOA Afrique à Khartoum.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, peur dans les communautés d'étrangers africains suite à la vague meurtrière de xénophobie connue ces derniers jours dans le pays. Eddie Sango a joint un Congolais résident à Johannesburg, Cédric Kalonji.
Le Sud-Africain revendique. Nous sommes des étrangers dans ce pays, qu'on nous accuse de beaucoup de choses. Là, je dis, nous, je généralise que nous vendons de la drogue à leurs enfants. Nous volons leur job. Ils n'ont pas d'emploi à cause de nous. Le lundi, on s'est réveillé. En tout cas, il y a eu des pillages. Ils ont saccagé des magasins appartenant aux étrangers. Moi, je suis à Johannesburg. Ils ont attaqué à Tafontaine, non loin de là où moi j'habite. Moi, je suis à Rosettenville. Ils ont pillé des magasins. Ils ont menacé blessés déjà. Heureusement que hier, un mardi, il y a eu un groupe de Congolais, Nigériens et Zimbabwéens qui se sont ligués aussi pour essayer de se défendre. C'est comme ça que ça s'est passé les deux premiers jours.
Quels sont les dommages que les Congolais ont subis en particulier? Y a-t-il eu des blessés? Ont-ils été visés d'une certaine manière?
Il y a des amis qui ont perdu des magasins en ville. Dans un cas isolé à Fristete, il y a un jeune Congolais qui a été poignardé. Il est mort. Au total, il y a sept Congolais qui sont tombés. Le petit que je connais, lui, il a été poignardé dans la province de Fristete.
Maintenant, est-ce que les activités continuent? Est-ce que vous avez peur de sortir? Comment ça se passe là-bas?
Il y a vraiment, disons, une petite reprise là, une petite reprise là des activités, mais les gens ont peur, hein. Même les Sud-Africains ont même peur, donc tout le monde a peur jusque-là. Par exemple, mes enfants ne sont pas allés à l'école depuis le lundi, je les garde à la maison, peut-être ils ne pourront commencer que le lundi de la semaine prochaine, mais jusque-là, c'est le sentiment de la peur de tous les côtés, donc on est là, donc il faut qu'on soit dans un véhicule pour essayer de se déplacer. S'il n'y a pas de véhicule, en tout cas, on a peur.
Maintenant qu'il y a eu des réactions dans plusieurs pays, dont la RDC, quel est l'impact de cela en Afrique du Sud?
Les réactions, il y en a hier, et même aujourd'hui en RDC, mais on n'a pas encore suivi la réaction des Sud-Africains. Peut-être ils seront au courant aujourd'hui et demain peut-être on pourra voir leurs réactions et de leurs autorités.
Qu'est-ce qui s'est fait au niveau des autorités de l'ambassade, par exemple?
Jusque-là, on n'a pas eu de consignes de l'ambassade. Je ne sais pas, peut-être dans des cas isolés, hein. Mais il y a des amis avec qui nous sommes dans des groupes WhatsApp, et on lance des messages à des Congolais qui sont partis par là pour qu'ils soient prudents et qu'ils puissent pas sortir comme ça, être à la merci de la vie.
C'était Cédric Kalonji, Congolais résident à Johannesburg. En République démocratique du Congo même, un consulat d'Afrique du Sud et des magasins sud-africains ont été pris pour cible hier et la police a prévenu qu'elle interdirait vendredi toute manifestation contre les violences xénophobes en Afrique du Sud. En début de soirée hier à Kinshasa, des jeunes avaient tenté d'attaquer le supermarché Shoprite, une enseigne sud-africaine de la grande distribution. Plus tôt dans la journée, un magasin de l'enseigne MRP, Mr. Price, avait été pillé à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Notre correspondant sur place, Narval Mabila.
Jeudi matin, les Louchois sont surpris par un groupe de jeunes en colère contre l'acte de violence des Sud-Africains qui font subir aux expatriés noirs, parmi lesquels se trouveraient les Congolais, acte dont plus d'une personne a qualifié de xénophobie. La ville louchoise est en débandade, plusieurs intérêts sud-africains sont attaqués, à savoir les consulats sud-africains qui a été saccagé, le supermarché Mr. Price vandalisé, l'agence de la compagnie aérienne South Africa Airways saccagée et bien d'autres magasins en partenariat avec les Sud-Africains. Les bilans matériel est lourd. Entre-temps, la police tente de disperser les manifestants en colère à coups de grenades lacrymogènes. C'est dans cette confusion que deux Louchois ont été atteints par balles. La police s'est débordée et l'armée est venue en renfort. Voici le témoignage de certains Louchois qui ont vécu les événements au micro de VO Afrique.
À Lubumbashi, la situation n'est pas bonne du fait de la réplique spontanée constatée par la population eu égard à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Nous devons relever effectivement qu'il y a eu débordement.
En fait, il y a soulèvement de la population suite à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Bon, en fait, la xénophobie et comme on a tué nos confrères, tout ça. Alors bon, les Congolais aussi se sont dit bon, ils attendaient quelque chose du gouvernement et rien n'a été fait. Alors ils ont bon jugé aussi de répliquer.
C'est le matin à 9h qu'on a vu un groupe de jeunes gens avec de petits papiers mentionnant le départ des Sud-Africains. Ils sont descendus jusqu'au niveau du magasin des Sud-Africains en face de Orange sur l'avenue Mobutu. Après un certain moment, il y a eu des policiers qui sont arrivés. La police a essayé de disperser les gens, mais les gens étaient nombreux. Et c'est ainsi qu'il y a eu une balle perdue. Je ne sais pas, c'est sur la Sende. Après ça, on a vu amener une personne qui a été touchée par balle. Et ces gens se sont dirigés jusqu'au niveau du magasin, là où il y avait beaucoup de policiers. Et il y avait beaucoup de gens là. C'est ainsi que quand les policiers ont vu qu'il y avait déjà une personne qui a été atteinte d'une balle, et ils ont lâché, ils sont partis. Les gens sont entrés dans le magasin. Ils ont pillé. Les magasins sont fermés et les mouvements sur la ville de Lubumbashi est un peu perturbé.
Donc nous déplorons cette situation, mais nous demandons tout simplement pour que ça ne puisse pas continuer, que les autorités disent un mot.
Les autorités sont introuvables, silence radio de la part des officiels. Les activités sont paralysées à 80%. La situation est revenue à la normale vers 16h heure locale. Lubumbashi, Narval Mabila pour VO Afrique.
VO Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Niger, le gouvernement a ordonné la fermeture de 6 établissements privés de santé pour diverses violations de la réglementation. L'annonce faite par le ministre de la Santé est saluée par l'opinion publique. Reportage à Niamey de notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Les 6 centres de santé frappés par cette décision sont tous situés à Niamey, la capitale nigérienne. Quelques mois auparavant, leurs responsables avaient été mis en demeure de se conformer à la réglementation en vigueur. Idi Ilyasu Menassara, ministre de la Santé publique.
Parmi ces cabinets, certains sont des agents de l'État, qui sont des fonctionnaires en activité et qui exploitent ces cabinets contre la réglementation en vigueur. D'autres, elles n'ont pas même la qualification. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a des désagréments dans la prise en charge des malades. Et tout ça, nous le faisons, c'est non seulement pour préserver la santé de la population, mais surtout pour faire en sorte que les textes vraiment en vigueur puissent être respectés. En tout cas, le gouvernement soit engagé à assainir ces secteurs. Si aujourd'hui les gens respectent les textes, il n'y a aucun problème. Même ceux qui ont été fermés là, si demain ils se conforment à la réglementation en vigueur, vraiment, ils peuvent réouvrir.
Ces actions d'assainissement du secteur de la santé sont saluées par les citoyens. El Hadj Idi Abdou, acteur de la société civile.
Ce n'est pas un domaine où il faut blaguer, c'est un domaine où il faut être ferme. Et je pense que maintenant, dès lors que les gens semblent récidiver, je pense maintenant qu'il faut passer à des sanctions pénales. L'aspect administratif, il faut le dépasser pour aller à des sanctions pénales parce que c'est ça qui fera en sorte que les gens comprendront que c'est vraiment sérieux et que ce ministre est décidé à assainir dans ce domaine. Et le ministre a le soutien des citoyens. On ne peut pas jouer avec ça quand même. L'école est marchandisée. Et maintenant, on marchandise aussi les soins. C'est très grave, il faut arrêter ça et je pense qu'il appartient au ministre maintenant, en cas de ces récidives-là, vraiment de passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est des sanctions pénales et je pense qu'il faut qu'on arrête ça.
En 2017 et 2018 également, plusieurs établissements privés de santé ont été fermés pour pratiquement les mêmes types d'infractions. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Pour terminer, une mauvaise nouvelle pour les fans de la musique soul des années 60 et 70 avec Aretha Franklin, Otis Redding, Wilson Pickett, Joe Tex, Johnny Taylor et j'en passe. Le guitariste et producteur Jimmy Johnson, l'un des membres fondateurs des Swampers, la légendaire section rythmique de Muscle Shoals, est décédé hier à l'âge de 76 ans chez lui dans l'Alabama. Dans Soul USA, j'ai toujours parlé de Jimmy, de son travail et de sa contribution extraordinaire à la musique moderne américaine. Toute cette histoire a été immortalisée dans le film documentaire intitulé simplement Muscle Shoals. Ma profession m'interdit de trahir mon émotion dans tout ce que je fais, mais vous comprendrez que Jimmy Ray Johnson était un ami, un frère. Jimmy, à la guitare ici dans ce gros succès d'Aretha Franklin. My respects, dear brother, so long.
All I'm asking, for a little respect.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.